Bonjour à tous. Voilà, c'est toujours une joie de se retrouver ici. Vous savez que quand on est arrivé dans le Nord, hein, en provenance de l'école biblique dans le Danemark, il y a plus de 20 ans déjà. La première église où on s'est retrouvé, c'est ici à Wavrin. Enfin, c'était pas ici, mais c'était là-bas. Il y avait Carlos Payon qui faisait une soirée. C'était 2-3 jours après notre arrivée. Quelqu'un nous a dit « Ah, mais venez là-bas. » Je sais qu'on a toujours un lien particulier avec l'église de Wavrin ici. Voilà. Alors, ces derniers temps, ces dernières semaines, j'avais une parole qui me travaillait et je pensais la partager avec vous. En fin d'après-midi, je fais un peu ce que j'essaye de faire à chaque fois que je prêche dans une église, c'est-à-dire de demander à Dieu comment lui il voit cette église, les personnes qui sont là, comment il veut vous encourager, qu'est-ce qu'il veut dire à l'église. Et quand on commence à prier, je ne sais pas si vous avez remarqué, parfois c'est le début des problèmes, hein. Mais c'est aussi le début des solutions. Et ce n'est pas seulement le début des solutions, c'est le début et la suite et la fin des solutions. Et donc, le Seigneur m'a montré certaines choses que je partagerai avec vous, des images, des paroles. Et ça m'a complètement changé de direction. Et donc j'avais ce choix de garder ce que j'avais ou d'aller sur cette nouvelle piste. Donc j'ai choisi d'aller sur cette nouvelle piste. J'espère qu'elle sera vraiment adaptée à ce que vous vivez et qui vous êtes. Voilà. Je vous propose de prier peut-être. Oui, Seigneur, merci parce que tu connais nos cœurs. Et tu es celui qui vient nous trouver là où nous sommes pour nous amener là où tu es. Et c'est ma prière ce matin pour moi-même, mais pour chacun de tes enfants ici. Viens les trouver là où ils sont et viens les amener là où tu es, Seigneur. Et ta parole a la puissance de faire cela. Ton esprit a la capacité de faire cela. Et ton amour se plaît à faire cela. Et donc, Seigneur, je prie cela, qu'au travers de ta parole et au travers de ce que nous allons vivre, tu nous attires à toi, tu nous amènes là où tu es, et tu ouvres nos yeux sur nos cœurs, nos situations, et les solutions, et les clés, et la réponse que tu es, toi, Jésus, pour toutes nos situations, pour toute notre vie. Seigneur, je prie ce matin que nous repartions d'ici fortifiés avec tes clés en main pour les mettre en pratique dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, on va commencer par le psaume 11, verset 3. Psaume 11, verset 3. Qui nous pose une question assez ébranlante, je dirais. Lorsque les fondements vacillent, que peut bien faire l'homme juste, l'homme droit ou le juste, selon les versions ? Lorsque les fondements vacillent, que peut bien faire le juste ou l'homme droit ? Et c'est une question qui peut être inquiétante, hein. Elle est comme pendante là dans ce passage. Ah, mais quelle est la réponse de Dieu pour ça? Alors déjà, les fondements, je pense qu'ils sont ébranlés en ce moment d'une façon toute particulière, hein. Le monde a toujours connu des périodes d'ébranlement, mais je pense qu'on traverse une période d'ébranlement très forte où les fondements de stabilité, les repères, les fondements de paix sont remis en question. Bon, c'est vrai, hein, il y a tout le contexte sanitaire, mais je dirais aussi les déclarations contradictoires. C'est le monde du pouvoir de la langue, de la communication, mais il y a aussi beaucoup de mensonges. Et qui croire? Où aller? Comment marcher? Et puis, il y a toutes les difficultés personnelles que nous vivons. Et souvent, dans des temps où les fondements sont ébranlés, nos réalités personnelles sont aussi ébranlées. Donc, qu'est-ce que ferait le juste ? Le juste, c'est vous et moi. Pas parce qu'on est meilleur que les autres, mais parce qu'on a été justifié en Jésus-Christ. Parce qu'on a été purifié pour mener une vie juste devant Dieu et devant les hommes. Que faire donc ? Alors, on peut remonter au début du psaume, et il y a une voix qui parle, qui dit « Prends ton vol comme un passereau afin de fuir dans les montagnes. » Prends ton vol comme un passereau afin de fuir dans les montagnes. Donc c'est un psaume de David qui correspond à certaines réalités, épreuves qu'il a vécues. Et il y a cette voix qui parle, et peut-être ce sont ces soldats des fois qui lui ont dit ça, ses conseillers. « Oh, mais avec tous tes ennemis autour de toi, il faut t'enfuir dans les montagnes. » Et peut-être c'est une voix à l'intérieur de nous qui nous dit « Mais face à toutes ces situations, il faut fuir. Il faut fuir. » Et c'est vrai que parfois dans la Bible, le Seigneur a donné des directives pour fuir. Hein, quand il dit à Joseph « Allez-vous réfugier en Égypte. » Hein, et Jésus, qui vient de naître, est emmené par Joseph et Marie en Égypte. Jésus nous dit « Si on vous persécute dans une ville, fuyez dans une autre. » Mais globalement, c'est pas une généralité, loin de là, très loin de là. Et finalement, c'est beaucoup plus rarement que Dieu nous dit de fuir, mais il nous dit plutôt de tenir là où nous sommes et de confronter. Il y a plein d'exemples dans la Bible où l'homme a fui. Je pense par exemple à Abraham, quand il y a la famine, vous savez, il fuit en Égypte et il pense qu'il va résoudre le problème de la famine, mais c'est pas Dieu qui lui a dit de fuir. Et finalement, il va avoir plus de problèmes, hein, parce que ça va créer un grand problème avec son épouse Sarah, avec Pharaon. Donc on connaît l'histoire. Jacob qui fuit devant Laban sur le conseil de Rebecca, parce qu'il a un différend avec lui. Et finalement, il pense fuir la colère d'Ésaü. Il a un différend avec Ésaü, son frère. Et il pense fuir la colère d'Ésaü sur le conseil de Rebecca, mais finalement il va dépenser 20 années de sa vie à trimer, à être trompé par Laban. Vraiment une période difficile de sa vie. Je pense à Baruch et tout le peuple d'Israël après la déportation à Babylone. Vous savez, les plus pauvres du pays restent dans le pays. Et le Babylone dit « Mais on va veiller sur vous, vous ne serez pas embêtés, etc. » Et ils ont peur et ils décident de fuir en Égypte. Et même Baruch, le scribe de Jérémie, il fuit. Jérémie, il reste et il sait que Dieu a dit de rester et d'avoir foi en ce qu'il a dit et dans sa parole et dans l'alliance qu'il a passée. Mais il fuit et finalement Baruch mourra en Égypte. Donc la fuite est rarement, très rarement, la solution de Dieu. Et d'ailleurs, je ne sais pas, mais la solution de Dieu, souvent, c'est de confronter. Et nous, les hommes, on n'aime pas confronter. On n'aime pas confronter les conflits, on n'aime pas confronter les relations, on n'aime pas confronter les problèmes. Donc souvent, on préfère fuir. Mais des fois, il y a des circonstances qu'on ne peut pas fuir dans nos vies. Voilà, peut-être des circonstances de deuil, de maladie, de conflits relationnels, des problèmes financiers, des problèmes émotionnels. Et on ne peut pas fuir son passé. On ne peut pas fuir son présent. On ne peut pas fuir son avenir. Et donc Dieu nous appelle à confronter. Parce que souvent, quand nous fuyons, tôt ou tard, on sera rattrapé par ce que nous fuyons si on n'a pas résolu les problèmes et les conflits. Il y a quelques années de cela, vous savez, on est impliqué dans la convention charismatique de Gagnères qui se déroule chaque année. Et avec Maggie, on faisait des ateliers sur différents thèmes. Et un jour, à la fin d'un des ateliers, il y a plusieurs personnes qui viennent pour la prière. Il faut dire que c'était des ateliers souvent sur la prière qu'on faisait, mais pas seulement. Et donc on priait pour cette personne. Et qui nous fait part d'une situation difficile qu'elle avait vécue, d'un abus spirituel qu'elle avait vécu avec une chrétienne, enfin qui se disait chrétienne. Et donc on prie pour ça, et à la fin, elle avait été encouragée, je pense, et elle demande nos coordonnées, si elle peut avoir nos coordonnées. Donc bien sûr, on lui donne. Et donc à l'époque, on habitait Roubaix. Et quand elle voit Roubaix, waouh, elle est, il y a son visage qui change comme ça. Donc je pense pas qu'elle avait une aversion contre le nord de la France, c'est pas ça. Mais en fait, elle nous dit, mais vous savez ce que je vous ai raconté, toute cette situation, c'est à Roubaix que j'ai vécu ça. Et elle a dit, ah, si j'avais su que vous étiez de Roubaix, je vous aurais même pas demandé la prière. Mais en fait, c'était comme un rendez-vous divin. Vous voyez, il y avait quelque chose qu'elle fuyait, et c'était pas seulement une ville, bien sûr, mais c'était une situation du passé qu'elle s'efforçait de fuir et qu'elle ne voulait surtout pas confronter et résoudre, et qui la poursuivait finalement. Et Dieu a permis cette situation-là. Nous, on ne connaissait rien à cette situation, elle ne savait pas qu'on était de Roubaix, mais Dieu a permis cette rencontre comme s'il voulait dire à cette personne, mais combien de temps vas-tu fuir ? Confronte les choses et Dieu va les régler pour toi, en toi, et il va te redonner la paix. Et je pense qu'on a certainement des situations comme ça dans nos vies, du passé, des relations familiales, de choses qu'on a vécues et qui nous poursuivent tant qu'on ne les a pas confrontées, déposées à Dieu, qu'on n'a pas reçu la consolation, la purification de Dieu, la déculpabilisation peut-être de Dieu, le pardon de Dieu et peut-être des pardons à donner aussi. Donc, deux réponses là. Est-ce que je vais fuir ? Donc là, la voix dit, je vais prendre ton vol afin de fuir. Est-ce qu'on va écouter ça ? Ou alors, le début du verset, qui est une première réponse, « J'ai fait mon refuge de l'Éternel. » La voix dit « Fuis », mais le psalmiste dit « J'ai fait mon refuge de l'Éternel. » Celui qui a fait son refuge de l'Éternel et qui court dans les bras de l'Éternel n'est pas condamné à fuir dans sa vie. Et donc, ne laissons pas ces voix nous répéter « fuis dans les montagnes, fuis cette situation ». Mais confrontons et trouvons notre refuge dans l'Éternel. Il y a une traduction que j'aime bien qui s'appelle « The Message », qui est une traduction anglaise. Il dit « J'ai déjà couru dans les bras de Dieu pour sauver ma vie. J'ai déjà couru dans les bras de Dieu pour sauver ma vie. Pourquoi donc devrais-je fuir ?» Si tu as déjà fui dans le lieu de refuge qui est Dieu, où vas-tu fuir encore ? Et puis, il y a une autre réponse qui est à la fin du psaume et qui dit au verset 7 « Car l'Éternel est un Dieu juste, un Dieu qui aime la justice. Les hommes droits verront sa face. » Ou le verront face à face, comme ça a été dit tout à l'heure dans ce passage. Les hommes droits le verront face à face. Là encore, j'aime bien la traduction, The Message, qui nous dit Dieu n'est pas parti, alors c'est l'ensemble du passage, hein, Dieu n'est pas parti dans les montagnes. Donc Dieu, lui, il n'a pas fui. Il est toujours là, il est au contrôle, comme toujours. Le propre de Dieu, c'est de remettre les choses à l'endroit. Le propre de Dieu, c'est de remettre les choses à l'endroit. Il aime redresser ce qui est courbé. Il aime redresser ce qui est courbé. Nous remettre d'aplomb. Et une fois que nous sommes ainsi affermis, nous pouvons le regarder face à face. Une fois que nous sommes ainsi affermis, remis d'aplomb, redressés, que nous avons laissé Dieu redresser ce qui était courbé, nous pouvons le regarder face à face. Dieu, des fois, nous envoie des épreuves, ou permet des épreuves, plus exactement, permet des épreuves. Mais à travers ces épreuves, c'est notre loyauté qui est testé afin de s'approcher de Dieu. Et aussi, c'est une opportunité de régler les problèmes qui sont en suspens dans nos vies et qui nous tiennent prisonniers. Prisonniers du passé, prisonniers de la honte, prisonniers de l'absence de pardon, prisonniers dans nos relations. Voilà, je suis sûr qu'après cette prière, cette femme, elle a senti à nouveau la liberté d'aller un jour à Roubaix, parce qu'elle n'a pas peur de croiser cette femme ou ce regard-là. Parce qu'elle a réglé quelque chose de son passé, face à face avec Dieu. Et en réglant des choses, des fois on ne va plus avoir peur de croiser certaines personnes, de rappeler certaines situations. Pensez à Jacob et Ésaü, on a dit ça. Jacob fuit, pendant 20 ans il fuit. Et il est loin d'Ésaü. Mais quand il revient, il doit confronter. On lui dit, oh, Ésaü vient avec, devant toi avec une troupe de 400 hommes. Oh là là, 20 années, il pensait avoir évacué le problème là. Oh, sûrement Ésaü, peut-être qu'il est mort, oh, peut-être qu'il est, il a oublié. Bah, apparemment, il n'a pas oublié. Et donc là, ouf, il tremble. Et il essaye d'acheter. Il se dit, oh, je vais envoyer des troupeaux, il va voir comme quoi je suis riche, ça va apaiser sa colère. Il envoie, mais Dieu dit non, 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 non. C'est pas comme ça que tu vas résoudre le problème. Et il doit lutter avec Dieu dans l'intercession. Et quand il lutte avec Dieu, Dieu va le bénir. Et Dieu va lui donner la victoire. Et ensuite, il voit face à face. Face à face, il voit Ésaü. Et qu'est-ce que il est dit à ce moment-là ? Je t'ai vu face à face. Et la traduction littérale, c'est « Et c'est comme si la face de Dieu me souriait. » C'est comme si la face de Dieu me souriait. Donc, parce qu'il a fait ce travail dans la présence de Dieu, dans la lutte, dans la prière, dans l'intercession avec Dieu, il a réglé son problème avec Dieu. Dieu a réglé son problème avec l'autre. Et c'est ça que Dieu souhaite pour nous. Arrêtons de fuir, mais réglons notre problème avec Dieu, devant Dieu, et Dieu va régler nos problèmes avec les autres ou avec les situations. Amen. Bien sûr, ça demande de l'humilité, ça demande souvent du pardon à libérer ou à recevoir. Mais ce sont des choses qui vont effacer notre culpabilité, notre honte et la prison du passé. Donc, il aime redresser ce qui est courbé, nous remettre d'aplomb, et une fois que nous sommes ainsi affermis, nous pouvons le regarder face à face. Affermis, c'est ce mot que j'avais reçu pour vous. Dieu veut vous affermir, Dieu veut nous affermir. Alors d'abord, juste le psaume 10-17, un encouragement dans l'affermissement de Dieu. Pour ceux qui souffrent, il est dit que Dieu affermit ceux qui souffrent, parce qu'il entend les désirs des petits. Tu leur redonnes du courage et tu prêtes l'oreille. Dieu n'est pas un Dieu sourd, mais il voit, il entend. C'est le Dieu qui a entendu les pleurs d'Ismaël. Hein, Dieu entend. C'est ce que veut dire Ismaël. Dieu entend ou Dieu a entendu. Il entend les pleurs d'Ismaël et il vient au secours d'Agar et d'Ismaël. Donc déjà, j'aimerais juste prier brièvement ça. Seigneur, tu vois ceux qui souffrent dans ton Église, que ce soit une souffrance physique, maladie, une souffrance spirituelle. Mais Seigneur, merci de ce que tu vois et de ce que tu entends, de ce que tu n'es pas sourd. Mais Seigneur, je te demande maintenant, par la puissance de ton esprit, par ce que Jésus a accompli à la croix, d'affermir ceux qui souffrent, de relever ceux qui souffrent dans leur corps, dans leur cœur et dans leur esprit. Amen. Psaume 27-14. Alors, Dieu veut nous affermir et il veut qu'on soit affermis. Dieu veut nous affermir et il veut qu'on se laisse affermir. Psaume 27, verset 14. Alors, je sais qu'il y a une version qui dit « Espère en l'Éternel hein, »,« Espère en l'Éternel ». Et là, dans le semeur, c'est « Attends-toi donc à l'Éternel, sois fort, affermis ton courage. » Oui, « Attends-toi à l'Éternel » ou « Espère en l'Éternel ». Et pourquoi cela ? Parce que le verset précédent nous dit « Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'Éternel au pays des vivants ?» Au pays des vivants. Ce n'est pas simplement au ciel qu'on a l'espérance de voir la bonté de l'Éternel, mais c'est au pays des vivants, ici-bas. Il y a une espérance et pour que la bonté de Dieu soit libérée dans nos vies. Attendons-nous à l'Éternel. Renouvelons-nous dans l'espérance qu'il est le Dieu bon, qui veille sur nous, qui agit et qui fait concourir toutes choses à ceux qui l'aiment. Job s'est posé beaucoup de questions. Pourquoi ? Mais à la fin de l'histoire, il a été affermi. Il a été libéré. Donc, Dieu veut affermir ceux qui souffrent. Dieu veut affermir nos cœurs par l'espérance qu'il est le Dieu bon. Psaume 119, verset 133. 119, 133. Psaume 119, 133. Quelqu'un veut le lire ? Tes paroles rendent mes pas plus sûrs, ne laisse aucun mal me dominer. Et dans le semeur ici, veuille affermir mes pas par ta parole, afin qu'aucun péché ne puisse m'asservir. J'aime bien cette traduction. Veuille affermir mes pas par ta parole, afin qu'aucun péché ne puisse m'asservir. Ou ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. La parole de Dieu est une puissance pour affermir nos pas dans nos vies. Et elle est une puissance pour dominer sur le péché. Vous vous rappelez de ce que Dieu dit à Caïn, hein, le péché se couche à ta porte, mais toi, domine sur lui. Bon, Caïn ne va pas tenir compte de cela. Et donc, qu'est-ce qui prend la place de la parole de Dieu dans ma vie ? Qu'est-ce qui vient voler la parole de Dieu dans ma vie ? Donc, je pensais justement en priant hier à Matthieu 13. Vous savez, cette semence, le semeur qui vient, il sème, bon, sur le chemin, dans les pierres. Et puis, il y a cette parole qui dit, voilà, il sème, il y a une partie de la semence qui tombe dans les ronces et les épines. Et il nous est dit, voilà, il y a des gens qui reçoivent la parole avec joie et qui la parole commence à pousser, etc. Mais il la laisse être étouffée par les soucis de la vie. Et les soucis de la vie peuvent voler vraiment beaucoup de choses. Les soucis de la vie et aussi les séductions ou l'attrait trompeur de ce monde. Les soucis du monde et l'attrait trompeur du monde. Qu'est-ce qui vole la parole dans nos vies en termes de temps qui nous empêche ou nous laissons ces choses voler notre temps au lieu de le consacrer à la parole. Je pense qu'on a tous fait ici l'expérience de périodes où on lit beaucoup la parole et on est fortifié, on est encouragé, mais il y a toujours des temps où qu'on traverse, et des fois des longues périodes où on se laisse voler le temps de la parole. Et on ne le sent pas tout de suite, mais ensuite nos vies commencent à décliner, et notre humeur commence à décliner, et notre espérance commence à décliner, et nous sommes en proie à toutes sortes de tentations ou d'iniquités ou de troubles. Qu'est-ce qui vole la parole dans nos vies en termes de temps ? Est-ce que c'est les préoccupations, les inquiétudes de ce monde ? Est-ce qu'elles volent notre joie ? Est-ce qu'elles volent notre espérance ? Et puis, qu'est-ce qui vole l'assurance que la parole de Dieu va semer en nous, va accomplir ce pourquoi Dieu l'a envoyé. Elle va germer et elle va porter du fruit. Qu'est-ce qui vole cela ? Qu'est-ce qui étouffe cela ? N'oublions jamais deux choses. La parole de Dieu, c'est pas simplement des instructions, des sagesses, c'est une personne. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc quand nous avons la parole près de nous, près de notre cœur, comme dit David, c'est Jésus que nous avons près de nous, près de notre cœur. Je pense que si Jésus il était assis là, au fond de l'église, là, je pense que tout le monde allait se déplacer pour essayer de s'asseoir à côté de lui, pour bénéficier de la bénédiction de Jésus, de la présence, de la grâce de Jésus, de l'amour de Jésus. Mais qu'est-ce que nous faisons avec la parole Jésus-Christ ? Qu'est-ce que nous faisons avec la parole Jésus-Christ ? Qui est là pour nous affermir, pour nous remplir, pour nous nourrir, pour nous bénir. Et la deuxième chose, c'est que toute la parole de Dieu n'est pas juste des instructions, mais elle est une promesse.
toute la parole de Dieu est une promesse. La parole commence en disant que la lumière soit, et la lumière fut. La parole de Dieu, elle promet une postérité à la femme qui écrasera la tête du serpent. Et Jésus, la postérité de la femme, est venu écraser la tête du serpent. La parole de Dieu a promis une postérité à Abraham, et malgré tous les efforts de l'homme pour se débarrasser d'Israël et du peuple juif, ce peuple est toujours là, est toujours un caillou dans la chaussure du monde, je dirais, parce que Dieu tient ce qu'il a dit. La parole de Dieu est une promesse, et une promesse tenue, et une promesse accomplie, parce que Jésus, la parole de Dieu, a tout accompli. Donc, fortifions-nous par la parole de Dieu. Et puis, quand je priais, donc, il y avait aussi une image d'un mur. J'ai vu un mur, et j'ai vu qu'il y avait une pierre dans le mur qui était comme déchaussée, qui était comme déboulonnée du reste du mur, et ça affaiblissait le mur. Et il y avait une urgence à affermir ce mur. Donc le mur, c'est peut-être les choses que nous avons construites avec Dieu. C'est peut-être notre vie en général, notre marche avec Dieu. Et Dieu a fait grâce, et nous avons avancé, nous avons construit des choses. Mais il y a comme une pierre qui est déchaussée là, et qui affaiblit le mur. Et donc, deux choses. Bien replacer, recentrer nos vies sur la pierre angulaire qui est Jésus-Christ, sur sa personne au travers de la relation, de l'intimité avec lui, et sur son œuvre, ce que Jésus a accompli. Recentrer nos vies sur son œuvre de pardon, de purification, de justification et de liberté pour marcher avec lui. Nous recentrer. Et puis j'ai eu cette pensée, je pense que vous avez, tous ceux qui ont un jardin ont expérimenté ça. Actuellement, c'est pas vraiment à nous parce qu'on loue, mais il y a un petit jardin derrière. Nous, on vit au-dessus d'un dentiste à Thumery. Et il y a un cerisier. Quand on est arrivé, ce cerisier, je pense qu'il faisait pas plus de 3-4 mètres de haut. Et il portait pas de fruits. Mais aujourd'hui, je pense qu'il en fait pas loin de 15. Il est énorme. Il est énorme. Ses branches commencent à passer chez les deux voisins, à droite, à gauche. Enfin, chez un voisin, oui, clairement. Et chez l'autre, ça va pas tarder. Et il a des racines énormes. Et naturellement, ces racines, je vois, elles commencent à ébranler le mur. Hein, je pense que tôt ou tard, bon, ça va prendre peut-être des années. Tôt ou tard, ce mur, il risque de tomber à cause de ses racines. Et je pense qu'il y a des murs comme ça dans nos vies qui semblent solides et qui sont ébranlés parce qu'il y a des racines souterraines, cachées, qui poussent sous le mur. Et année après année, au début, on ne fait pas très attention, ces racines ont la capacité de déstabiliser les murs de ce que nous avons construit, la solidité et la stabilité de nos vies en Christ. Et quand je pensais à ça, je pensais à cette parole dans Hébreux 12, 15 qui dit « Ne laissez pas les racines d'amertume infectées. Ne laissez pas les racines d'amertume infectées. » Je pense que dans nos vies, la racine d'amertume est souvent une façon dont l'ennemi agit pour déstabiliser nos murs. Et c'est souvent caché. C'est là, peut-être certaines amertumes sont très ouvertes, mais d'autres sont comme enfouies. Des amertumes contre les situations, contre les hommes, contre les relations, avec des relations, contre les personnes dans nos relations. Et ça finit par déstabiliser nos murs. Et donc Dieu nous invite à nous purifier des racines d'amertume, et je dirais même plus d'éradiquer, de déraciner. Au château, il y a parfois des arbres ou des espèces qui sont pas très positives pour les autres, et donc on doit les couper. Mais bon, ou même les mauvaises herbes, mais bon, disons des petits arbres. Et tu coupes ça, c'est assez facile de couper un arbre, surtout si tu as une tronçonneuse. Mais ça repousse tôt ou tard. Mais déraciner un arbre, ça c'est autre chose. Et on l'a fait avec des petits arbres. Je me rappelle, tu pars avec ta pioche là, ça peut prendre 45 minutes, une heure pour déraciner un petit arbre, un petit arbuste. parce qu'il faut aller chercher toutes les racines. C'est épuisant, hein. C'est épuisant. Et c'est donc, c'est pas facile, mais quand tu fais ça, l'arbre, il va pas repousser, ça c'est sûr. Si tu prends bien toutes les racines, il va pas repousser. Et donc, peut-être Dieu, il nous invite à prendre notre pioche. La parole est voilà, elle est comme un marteau. Je pense qu'elle peut être comme une pioche aussi qui creuse et qui déracine les racines d'amertume, les situations, pour que nos murs soient stabilisés et solidifiés. Donc, Matthieu 13, la semence, l'image de ce mur. Et puis j'ai eu une autre image étonnante. J'ai vu un poisson qui était sur la terre ferme et il suffoquait. Donc je voyais le poisson qui cherchait l'air, qui cherchait l'air et il suffoquait. Ben ouais, c'est évident qu'un poisson hors de l'eau, il ne va pas tenir très longtemps. Et il y a quelques mois, avec Maggie, comme peut-être plusieurs autres ici, on a eu le Covid et on avait des symptômes respiratoires. Par la grâce de Dieu, on a réussi à tenir à la maison, mais je me rappelle que certaines nuits, je me réveillais mais complètement étouffé. Et ce sentiment de plus trouver son air, son souffle, c'est effrayant, quoi. Hein. Là, tu cries à Dieu. C'est effrayant. Tu te dis, mais est-ce que la prochaine respiration, ça va être la dernière ou est-ce qu'il y a encore de la respiration? Et donc, je pensais à ce poisson qui suffoque. Mais le poisson qui suffoque, tu le remets dans l'eau, hop, tout de suite, il retrouve la respiration. C'est quoi le problème? C'est qu'il a quitté son milieu. Il a quitté l'eau. Et hors de son milieu, il ne peut pas respirer. Jésus nous a dit, vous n'êtes pas du monde, mais vous êtes dans le monde. Mais vous n'êtes pas du monde. Notre milieu n'est pas le monde. Et si nous nous nourrissons du monde, on va être comme ce poisson. Et si on oublie d'où nous venons et dans quel monde nous appartenons, à quel monde nous appartenons, on va finir par suffoquer. Et je pense que c'est une marque du vrai chrétien, c'est de ne pas se sentir à l'aise dans le monde. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens ici qui se sentent à l'aise dans le monde, mais enfin, je veux dire, ce n'est pas qu'on est des reclus, des ermites, ce n'est pas ça. Mais les valeurs de ce monde, le système de pensée de ce monde, c'est quelque chose de lourd à porter, c'est quelque chose de difficile parce que nous avons un autre milieu, nous avons d'autres valeurs. Et donc, cette eau-là, c'est quoi ? Dans laquelle nous devons replonger pour retrouver notre souffle. Parfois, dans les temps de déstabilisation, nous manquons de souffle parce qu'on est sorti de notre milieu. Je dirais, l'eau de la parole, on l'a déjà dit, qui nous affermit. Donc, se nourrir de la parole, l'eau de la parole. Et puis, l'eau parle aussi du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, réapprenons à écouter le Saint-Esprit, à prendre du temps dans nos vies pour écouter le Saint-Esprit qui va nous purifier et qui va nous guider. Et avec ça, nous allons retrouver une respiration. Et puis je dirais que c'est l'eau de l'amour de Dieu qui nous a purifiés. Dieu qui a donné son Fils à la croix, ne donnera-t-il pas toutes choses avec lui par grâce ? Dieu a donné le meilleur à la croix, ne te donnera-t-il pas toutes choses par-dessus, par grâce, pour faire face à toutes les situations? Mais il faut qu'on puisse se replonger dans cet amour de Dieu, dans cette intimité. Et donc je nous invite à retrouver l'eau de la parole pour nous en nourrir et être affermis, l'eau du Saint-Esprit pour écouter et nous laisser guider par l'Esprit, et cette capacité à reconnaître comment l'Esprit parle et à entrer dans ce que l'Esprit dit, et l'eau de l'intimité de l'amour de Dieu qui nous écoute, qui nous connaît de l'approbation de Dieu et qui nous affermit dans son amour et dans sa paix. Je vais finir juste avec le psaume 68, verset 29. Psaume 68. Verset 29. Or, ton Dieu a décidé de t'accorder de la force. D'autres versions disent a commandé de t'accorder de la force. C'est un commandement de Dieu. Dieu a commandé de t'accorder de la force pour affermir ce que tu as fait pour nous. Dieu est celui qui a tout accompli pour nous, mais en plus, il a décidé, il a commandé de nous donner la force pour pouvoir affermir ce qu'il a déjà fait pour nous. Et donc, c'est un encouragement que Dieu nous donne. Laissons-nous affermir par sa force dans cette relation, dans notre milieu, l'eau de la parole, l'eau du Saint-Esprit, l'eau de l'amour de Dieu. Mais il a déjà tout accompli. Et comme j'ai dit tout à l'heure, s'il a donné son Fils unique, ne nous donnera-t-il pas tout par-dessus par grâce? Et cette parole me fait penser aussi, vous pouvez voir en parallèle avec Ésaïe 26, 12, « Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. » Donc voilà, en conclusion, ne laissons pas la semence de sa parole être étouffée en nous par les préoccupations et les inquiétudes que ce monde agité agite autour de nous aussi. Ne laissons pas nos murs être déchaussés ou être déstabilisés par les racines d'amertume, mais laissons Dieu déraciner. Ne fuyons pas, mais confrontons les problèmes en trouvant refuge en Dieu. Et si nous sentons que nous suffoquons, que nous manquons d'air, posons-nous la question de savoir si on n'est pas sorti de notre milieu spirituel qui est le nôtre. Et revenons dans notre milieu spirituel, et ça nous donnera de l'air dans notre milieu spirituel, mais aussi de tenir dans ce monde qui n'est pas le nôtre, mais dans lequel Dieu nous appelle aussi à vivre. Et peut-être à donner de l'air à d'autres aussi. Demeurons dans ses voies, son accomplissement, car ses desseins sont pour notre paix. Et particulièrement dans ces temps, discernons ses œuvres préparées d'avance, recentrons nos vies sur ses œuvres préparées d'avance. Ne nous laissons pas disperser et diluer, mais recentrons nos vies sur ses œuvres préparées d'avance. Quand les temps sont des temps d'ébranlement, je pense que c'est un appel de Dieu à nous recentrer sur l'essentiel de sa personne et de ce qu'il a déclaré sur nos vies, de ses desseins pour nos vies. Et je pense qu'il y a vraiment une urgence à être là où Dieu veut que nous soyons et à faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Amen. On va prier. Seigneur, merci pour tout ce que tu as semé dans la vie de chacun de tes enfants ici. Et à chacun, tu as donné une richesse particulière, et à chacun tu as donné une richesse commune qui est ta parole. Et ta parole est une promesse, et une promesse tenue, et une promesse accomplie. Oui, Seigneur, nous voulons chérir ta parole qui est toi, Jésus, ta personne. Nous voulons t'inviter près de nous, à t'asseoir à côté de nous et à régner dans nos cœurs, parce que nous aimons ta personne. Si nous aimons ta personne, nous désirons ta parole. Seigneur, je prie que tu nous affermisses par ta parole qui est promesse tenue pour tes enfants. Seigneur, je prie aussi que tu nous montres là où nos murs sont en danger, là où nos murs sont ébranlés, là où nos murs doivent être stabilisés, fortifiés. Et merci Seigneur parce que tu as pourvu déjà pour que nos murs soient fortifiés et affermi. Et je prie que tu montres à chacun ce que tu as pourvu d'avance, ce que nous pouvons prendre pour affermir nos murs et là où nous devons éradiquer ce qui déstabilise les murs de nos vies, les murs de ton œuvre en nous. Seigneur, merci pour cette sagesse, merci pour ce courage de discerner et merci pour cette persévérance d'éradiquer et de déraciner par ta grâce, ce qui déstabilise nos murs. Et Seigneur, nous souhaitons vraiment, voilà. Enfin, tu vois, c'est un soupir dans chacun de tes enfants, dans toute la Bible. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Seigneur, je prie que nous apprenions à respirer dans notre milieu naturel ou surnaturel. le milieu qui est le tien, Seigneur, le milieu de ta parole, de ton amour et de ton esprit. Seigneur, redonne-nous une respiration ample, une respiration qui donne la vie, une respiration qui n'est pas étouffée, qui n'est pas écrasée, mais qui est une respiration d'approbation et de liberté en toi. Seigneur, c'est là qui est ta joie, c'est là qui est ta force, c'est là que nous pouvons puiser tout ce qui est nécessaire pour nos vies et en surplus pour pouvoir donner aux autres. Seigneur, je prie ça pour moi-même, je prie ça pour chacun de nous. Redonne-nous cette respiration en nous immergeant tout à nouveau dans notre milieu qui est toi, Jésus, et tout ce que tu as pourvu pour nous. Nous te bénissons, Seigneur. Et je prie que dans cette semaine, tu nous donnes des opportunités et tu nous rappelles. Alors, dans cette situation-là, ne t'empresse pas de travailler ou de parler comme le monde, mais viens dans ton milieu, viens dans la prière, viens dans la parole, viens dans mon amour, et tu trouveras les solutions et les paroles appropriées. Et tu n'auras pas besoin de fuir dans les montagnes, mais tu seras en sécurité dans mon refuge pour confronter et solutionner tout ce qui te fait peur. Seigneur, merci pour ta paix renouvelée en chacun de nous. C'est toi qui accomplis ces choses en nous, pour nous et au travers de nous. Sois béni dans le nom de Jésus. Amen.